Radio Mouqueuse, Radio Mouqueur, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des évidences neurologiques de l'intelligence émotionnelle. Dans les années 90, la science a rendu son verdict. Il existe aujourd'hui des données neurologiques qui appuient l'hypothèse de l'existence de l'intelligence émotionnelle. À cette époque, l'imagerie médicale a révolutionné la recherche en neurosciences grâce à l'IRM, qui permet de voir sur écran les structures de notre cerveau responsables de nos émotions. La localisation de ces zones était alors principalement observée sur des patients atteints de graves lésions cérébrales ou sur des animaux de laboratoire. Inspirés par les travaux du psychologue Robert Zajonc, trois neuroscientifiques, Joseph Ledoux, Antonio et Anna Damasio, parvinrent à situer dans quelle zone cérébrale logeaient les zones d'induction de l'émotion. Dis-moi où ça s'agite dans ton cerveau, je te dirai comment tu t'émeus. Ledoux est ainsi parvenu à localiser l'amygdale limbique, située dans le lobe temporal, organe essentiel à notre capacité de ressentir et percevoir chez les autres certaines émotions. Elle attribue notamment une signification émotionnelle aux stimuli sensoriels qui lui parviennent du monde extérieur, le cerveau surveillant en permanence les moindres modifications des organes. Dans toute une série d'expériences menées sur des rats, Ledoux observa que les stimuli sensoriels font d'abord escale dans le thalamus, la console de mixage du cerveau, passage obligé de toutes les informations visuelles, auditives, gustatives et tactiles. On sait aujourd'hui que le thalamus relaie ces informations sensorielles vers les cortex sensoriels appropriés, qui se chargeront de donner une signification aux différents stimuli. Toutefois, en cas de danger, une partie des informations sensorielles captées par le thalamus n'est pas transmise directement au cortex sensoriel, mais détournée vers l'amygdale limbique qui, une fois activée, par l'entremise de son noyau central, fait naître des réactions émotionnelles avant même que l'intégration perceptuelle n'ait eu lieu et que le système cortical ait pu se représenter complètement le stimulus. Les réponses émotionnelles sont alors automatiques. La route du thalamus à l'amygdale, communément appelée la voie thalamo-amygdalienne, se situant entièrement dans la partie émotionnelle du cerveau, est beaucoup plus courte et rapide, ce qui explique notre capacité à réagir vite. Mais les réactions produites par l'amygdale interviennent également de manière plus discrète dans nos comportements de tous les jours, au point de passer inaperçus. Selon Ledoux, il existe une connexion, aujourd'hui vérifiée, entre l'amygdale limbique et le cortex préfrontal. Or, le cortex préfrontal est impliqué dans les processus de contrôle de soi, de mémorisation, d'évaluation des conséquences, d'attention, de régulation des comportements et dans la prise de décision. Comment ne pas mesurer toute l'importance de cette découverte? Comment cette connexion fonctionne-t-elle? À la manière d'un gyroscope, le cortex préfrontal associe les signaux émotionnels à un stimulus et vient corriger les réactions émotionnelles initialement déclenchées par l'amygdale. Cela permet par exemple de se rendre compte que le stimulus déclencheur de notre peur est erroné. Ce que l'on croyait être un serpent n'était finalement qu'une branche. La peur est alors dissipée. Le cortex préfrontal exerce donc un contrôle conscient sur nos émotions. Il stocke les différentes expériences émotionnelles vécues et, en temps voulu, il réactive les sensations émotionnelles lors d'une rencontre ultérieure avec le même stimulus émotionnant. À la même époque, les découvertes de Joseph Ledoux furent appuyées par les résultats d'Antonio et Anna Damasio, les époux neuroscientifiques qui étudièrent ce qu'ils ont appelé les marqueurs somatiques, expériences émotionnelles stockées dans notre mémoire. Ces marqueurs somatiques aident le cortex préfrontal, comme nous l'avons vu plus haut, à corriger les réactions émotionnelles. Il déclenche les émotions qui nous guident dans nos choix, en attirant notre attention sur les conséquences négatives ou positives de nos plans d'action. Ce marquage permet d'écarter d'emblée certains scénarios d'action en conduisant l'individu vers l'essentiel. Il s'agit là d'un vrai gain de temps par rapport au processus de prise de décision classique, qui part du principe qu'on collecte l'ensemble des informations pertinentes sur un problème, qu'on élabore un nombre d'options, puis qu'on les évalue rationnellement sur des critères objectifs pour en fin de compte choisir une option plutôt qu'une autre. Mais comment les Damasio en arrivèrent-ils à cette conclusion? La réponse est passionnante. Au XIXe siècle, vivait un homme, Phineas P. Cage, dont les Damasio ne savaient rien, mais dont l'histoire avait fortement intrigué les médecins de l'époque et marqué le tout début de la psychochirurgie moderne. Il y a une vingtaine d'années, les Damasio se penchèrent sur ce cas étrange, vieux de près de 180 ans. L'homme, cheminot, travaillait avec des explosifs durant la construction de chemins de fer aux États-Unis, dans le Vermont. En 1848, alors âgé de 25 ans, il survécut miraculeusement à l'explosion d'une mine destinée à creuser le rocher. Cette explosion projeta une barre d'acier de 6 kg, 1,10 m de long et 3 cm de diamètre à travers la joue gauche de Gage, perçant la base de son crâne avant de transpercer le cerveau et de ressortir à toute vitesse par le dessus de la tête, finissant sa course une dizaine de mètres plus loin. Le médecin de campagne John Harlow parvint à extraire de son crâne les éclats restants de la tige métallique. Avant son accident, Gage était décrit comme un contremaître compétent, un homme chaleureux et religieux, doté d'une intelligence normale, travailleur de surcroît et plutôt apprécié par son entourage. Après son opération et la période de convalescence, et contre toute attente, Gage ne perdit rien de son intelligence. Sa mémoire, sa parole et ses mouvements ne subirent pas d'altération. Par contre, le comportement et la personnalité de Gage avaient changé du tout au tout. Gage devint agressif, détestable, indifférent à ses proches, incapable de prendre des décisions raisonnées. Ses amis le décrivirent comme irrévérencieux, grossier envers la religion, obstiné et impatient lorsque ses désirs n'étaient pas satisfaits. Ses réactions étaient imprévisibles. Il devint, et ce jusqu'à sa mort en 1861, irresponsable et incapable de mener un projet à bien. Grâce aux techniques actuelles de la neuroimagerie, les Damasio purent reconstituer virtuellement sur ordinateur le cerveau endommagé de Gage à partir de son crâne qui avait été conservé au Warren Anatomical Museum de l'Université de médecine d'Harvard. D'après leurs estimations virtuelles, la barre de fer aurait endommagé la partie orbitaire du cortex préfrontal, révélant le rôle profond de cette partie du cerveau dans le contrôle des émotions et dans la prise de décision. Poursuivant leurs observations, les Damasio conclurent que, relié à l'amygdale, le cortex préfrontal semblait dicter les comportements en fonction de leurs conséquences émotionnelles. Plus tard, les Damasio confirmèrent leurs premières hypothèses faites sur Phineas P. Gage, en observant cette fois-ci, en chair et en os, certains de leurs patients atteints de lésions au cerveau. L'un des cas les plus célèbres est celui d'Eliot. Cet analyste financier avait souffert d'un méningiome, une tumeur cérébrale bénigne dans la zone centrale du lobe préfrontal, qu'on avait dû lui ôter. Après cette opération, des expériences en laboratoire révélèrent qu'Eliot avait conservé un fonctionnement intellectuel normal. Il était toujours cet homme vif et très cultivé, mais son comportement au travail n'était plus le même. Il prenait mauvaise décision sur mauvaise décision, lorsque celle-ci touchait à des questions personnelles ou sociales. Il n'était plus capable d'établir des priorités, s'interrompait indûment, ne parvenait plus à planifier efficacement ses activités ni à tirer les leçons de ses erreurs passées. Il n'arrivait plus à se concentrer sur une tâche. Il se lança même dans des opérations boursières qu'il savait douteuses et y perdit énormément d'argent. Bien qu'il fût tout à fait capable, intellectuellement parlant, d'éviter potentiellement ses déboires, il n'y parvenait pas. Eliot avait le savoir, mais pas le savoir-faire. Les Damasio procédèrent alors à des examens au scanner et par résonance magnétique nucléaire et diagnostiquèrent que les lobes frontaux gauche et surtout droit étaient atteints. Or, la particularité d'Eliot, comme d'autres individus atteints des mêmes lésions, était précisément de ne pas ressentir d'émotion avant de prendre une décision. Les Damasio conclurent qu'une lésion des zones de connexion entre l'amygdale, limbique et le cortex préfrontal, suite à un choc ou une tumeur, empêchait la personne d'associer ses réponses émotionnelles à telle ou telle situation sociale. En d'autres termes, celle-ci ne savait plus céder de ses émotions pour prendre des décisions intelligentes. Des études plus récentes encore révèlent que si les connexions neuronales entre l'amygdale et le cortex préfrontal sont endommagées, l'individu est incapable de reconnaître et d'interpréter les émotions de base exprimées sur le faciès humain. Ces études neurologiques, mises bout à bout, constituent une nouvelle voie de recherche qui contribue à différencier encore un peu plus l'intelligence émotionnelle de l'intelligence analytique. Autrement dit, de mieux comprendre l'importance du QE dans le fonctionnement normal des individus. Ainsi, et pour en revenir au rôle du QE dans l'entreprise, nous voyons que des structures du cerveau sont impliquées non seulement dans la perception et la fabrication d'émotions, mais encore dans la prise de décision. Les découvertes des neurologues ne permettent pas d'appuyer un modèle de l'intelligence émotionnelle plutôt qu'un autre, modèle pur versus modèle mixte, mais elles confirment l'existence d'une forme d'intelligence distincte de l'intelligence analytique mesurée par le QI. Contrairement à l'intelligence analytique, dont le siège est le néocortex, les capacités propres à l'intelligence émotionnelle seraient situées principalement dans les circuits neuronaux qui lient les régions limbiques contrôlant les émotions, je parle ici de l'amygdale, au cortex préfrontal, le centre décisionnel du cerveau. Évidence neurologique à l'appui, on reconnaît aujourd'hui l'existence de deux composantes principales de l'intelligence émotionnelle, la perception émotionnelle et la régulation émotionnelle. Que de chemin parcouru depuis Phineas P. Gage. Dans la session qui suit, nous allons nous intéresser au QE en action. Merci de m'avoir écouté.